André Beaunier, le dernier jour. Croyez-moi, frère Siméon, c'est la fin du monde. Mais non, c'est le commencement du printemps. Et le frère Siméon, jardinier du couvent, montrait de la main le verger fleuri, blanc et rose. On dirait une neige égayée d'aurore. Les arbres sans feuilles et comme sans vêtements, déjà ornés de leur coquetterie, l'air qui blondit au premier soleil. Or, le prieur qui annonçait à son humble ami la fin du monde avait, pour déclarer cette rude nouvelle, un vif entrain. C'est qu'il donnait le résultat de ses calculs, de ses dialectiques malignes, et trouvait, à bien argumenter, la consolation d'aboutir à une catastrophe. Les doctrinaires ont même dans le désespoir une allégresse d'orgueil intrépide. Au contraire, le jardinier regardait le printemps avec une douceur de mélancolie telle que la conseille à une âme un peu attentive, l'incertitude où l'innocent plaisir nous laisse. « Eh bien, repartit le prieur, c'est le dernier printemps. Mais Dieu n'aime-t-il plus son ouvrage ?» demanda le jardinier. Le prieur impitoyable répondit « Mais le monde finira, cela est écrit dans nos livres. » « Et je le crois docilement, reprit le jardinier, mais nos livres ne disent pas quand finira le monde. Ben, il nous invite à le prévoir. » Et le prieur, avec une impérieuse éloquence, épilogua sur les nombres de l'Apocalypse, d'où il tira, sans maladresse, la somme des probabilités qui suffirent à un logicien pour être sûr de sa croyance. Il déroula le fil ténu des hypothèses qui doivent à leur enchaînement une apparence de rigueur et chercha ses preuves dans le fracas des similitudes. Comme Dieu a fait le monde en 6 jours et le 7e jour, ayant accompli son dessein, se reparosa, ainsi les millénaires sont les jours du monde. « J'y consens, » dit le frère Siméon. Et au bout de 6000 ans, le monde ayant accompli son dessein divin aura son tracas achevé, son repos obtenu. « Oh, cela, » dit le frère Siméon, « sera assurément digne d'une volonté, ami de l'ordre et de la belle symétrie. Depuis la création du monde jusqu'à notre Seigneur, il y a 5000 ans, et voici, depuis notre Seigneur, 1000 années bientôt écoulées, voici la fin du monde. À condition, dit le frère Siméon, que la présente année soit en effet la 1000e après la venue de notre Seigneur. Oh, ça, s'écria le prieur, en doutez-vous? Le frère Siméon rouge sourit dans sa grande barbe. Le prieur ne s'en aperçut pas. Il était à supputer les périodes, les règnes et les âges, et à tâcher de les grouper en ce total de 1000 années dont il avait besoin pour établir solidement ses contes et prophéties. Faute de quoi, le néant d'une opinion fausse. Les systèmes n'ayant que la combinaison des idées ou des mots, qui leur sont analogues, ne pèsent pas lourd, ne pèsent rien de sorte qu'ils tiennent debout sans appui. Mais la réalité, qui serait à leur ressemblance, s'écroulerait et ne ferait qu'un tas de ridicules décombres. Le prieur, que le jardinier suivit obligeamment, avança de quelques pas. Et puis, avec la facilité accoutumée qu'ont les religieux à prendre la pose de la prière, il s'agenouilla. Bon, ce n'était pas afin de prier, mais de son doigt, qu'il avait mince et habile aux écritures, il traça promptement des chiffres sur le sable et les réunit au gré de sa pensée ardente. Le jardinier contemplait avec une nonchalante curiosité ces indices d'une présomptueuse rêverie au terme de laquelle était possiblement la fin du monde, et songeait qu'au surplus, ni la justesse de l'évaluation, ni l'erreur ne changeraient en aucune façon le divin projet que l'on appelle destinée. Soudain, comme si le prieur venait de surprendre sa mémoire en défaut, il effaça l'un des chiffres et, sur le point de le remplacer par un autre, il broncha. Il se leva et s'en alla consulter ses livres. Le jardinier ne le retint ni d'un geste ni d'un mot. Le jardinier souriait encore. Il attendit un peu de temps, regarda le soleil matinal rayonner dans l'air et scintiller sur la rosée. Un piaillement d'oiseaux fut la gaieté du jardin joli. Le frère Siméon prit son râteau et, à grands coups résolus, il rendit au sable qu'avait un instant mâchuré les symboles vains et arrogants de la destinée sa gentillesse d'ignorance. Le frère Siméon et le prieur étaient amis de jeunesse et, dans ce couvent des bords de la Seine, gardaient une familiarité ancienne malgré l'inégalité de leurs conditions. Le frère Siméon, d'ailleurs, avait jadis été un autre homme, assidu à lire les philosophes et plus adroit que personne à concilier la doctrine d'Aristote avec la loi évangélique. Sa jeune ambition le tentait de déchiffrer l'immense et méticuleuse allégorie de l'univers. Il étendait à l'univers entier ce qui est dit des cieux, qu'il raconte la gloire de Dieu. Il prétendait que la gloire divine fut la pensée du Créateur, et il quêtait dans le détail de la création les intentions surnaturelles. Puis, étant compagnon de livres et des idées, il vint à considérer les idées comme l'âme des livres, et les livres comme des êtres vivants où Dieu se révèle. Ainsi les païens d'Athènes et de Rome seraient, à qui les entendraient sans faillir, les annonciateurs de la vérité, son premier langage. Le frère Siméon avait appris le latin, le grec, l'hébreu, les phénomènes de la nature, le jeu divers des éléments, l'art de la controverse et la science de la foi. Mais un jour, lors de sa 30e année, il s'aperçut que son étude l'aventurait aux alentours de sa croyance. L'examen qu'il faisait de la création le divertissait du Créateur, à cause de l'abondante et charmante beauté de la création qui occupe notre curiosité. Un symbole trop élégamment dessiné amuse nos regards et nous détourne la signification secrète. Nous aimons une image au détriment de l'objet. Puis les idées sont des folles qui nous appellent, nous captivent, nous entraînent. Et si l'on se lasse du perpétuel badinage de pensée? Et enfin, le frère Siméon, jeune encore, éprouva cet ennui mêlé d'inquiétude qui veut qu'on abandonne ses élections périlleuses et qu'on se réfugie dans une sagesse prudente. Il demanda qu'on lui permît de n'être plus un docte moine et l'honneur présumé du couvent, mais le dernier des serviteurs de la maison. Il renonça aux industrieuses facéties de l'intelligence et devint, pour sa tranquillité, le simple frère qui veille aux fleurs, aux fruits et aux légumes. L'hiver, on le mettait aux soins du ménage et d'économie. Balayant, essuyant la poussière ou faisant luire l'orfèvrerie sainte de la chapelle, il rêvait au prochain printemps, à l'éveil du verger. Il accueillait aussi les voyageurs et leur montrait une aimable visage de moine, qui prouve déjà que la religion n'est pas renfrognée ni revêche. À 70 ans passés, il ne lui souvenait de ses entreprises de ratiocineur que pour être content de son évasion, pour célébrer son bonheur de liberté. Il s'était aperçu que le dogme nous impose un petit nombre de croyances, nous dispense d'une recherche indéfinie et nous donne repos et loisirs. en s'acquittant exactement de sa tâche et de son moindre devoir, en imitant le zèle de Marthe et la rêverie de Marie. Le frère Sibéron se réjouissait d'avoir encore du temps pour ne rien faire et pour être pareil à un enfant qui joue dans un jardin sous l'œil indulgent du Seigneur. Le prieur, lui, était resté ce qu'on avait connu, un laborieux garçon, gardien de la règle, et que l'amour de la règle portait à l'amour de la chronologie. Son principal souci était de soumettre aux heures de jour et de nuit la ponctualité de ses moines et la sienne. Son étude principale était l'histoire. Il l'avait réduite à l'énumération des dates ou repères qui nous préservent de vous égarer dans la durée, comme au risque de se perdre les navires sur la mer, sans route ni relais. Il s'était emparé aussi du passé, mais l'avenir, à l'extrémité des prophéties, s'étendait devant lui comme un océan qui n'aurait ni plage ni horizon. C'est pour cela qu'il se tourmentait à fixer le jour de la fin du monde. La redoutable catastrophe, au lieu de l'effrayer, le rassurait. Il attendait avec passion ce dénouement, le guettait, s'acharnait à en attraper la prévision positive. Après cela, dompté les hasards et l'incertitude contrainte, il posséderait l'horaire complet de notre aventure d'en bas. Une clochette appela le frère Siméon au parloir. Il y allait lorsque l'appela aussi le prieur, disant d'une voix satisfaite : Il n'y a point de doute, frère Siméon, nous sommes au dénouement. Le frère Siméon fit semblant de l'entendre pas. C'était sa nièce qui venait le voir, Michel, fille de son frère, et qui, sur un front de 20 ans, portait la couronne de ses cheveux d'or. Il y avait dans ses yeux et partout son visage une tremblante gaieté d'espoir. Ses lèvres commençaient un sourire et n'osaient l'achever jusqu'au rire. Elle ressemblait à l'un des 6 printemps qui préludent. Elle dit au bonhomme : On dit que la guerre est sur le point de finir, le croyez-vous ? Le frère Siméon, qui n'en savait rien, répondit : Oh, je le crois volontiers, et que les Sarrasins demandent merci. Veuillent-ils s'amender ? Et que nos soldats reviennent ? Ben, il faudra les bien accueillir. Vous le saviez, oncle Siméon ? Mais non, tu es venu la première m'annoncer la jolie nouvelle, comme la caille et l'hirondelle annoncent le printemps. Inattentif aux gentils compliments, Michel montra son dépit. « Vous ne le saviez pas ? » s'écria-t-elle. « Alors c'est donc pas vrai ? » ?»« Petite, bien des choses sont vraies, et je n'en sais rien. Cela compense d'autres choses que j'ai cru savoir et qui ne sont pas vraies, le moins du monde. Mais à mesure que je vieillis, j'oublie, et par ignorance, j'ai conduit beaucoup d'erreurs. » Michel ne voulut point que son propos fût éludé. Elle interrompit le bavardage du bonhomme. « Ah, fidèle, vous ne croyez pas que la guerre finisse ?» Le chagrin se vit dans ses yeux et partout son visage. « Mais si, je le crois, petite, » reprit le frère Simon. « Vous le croyez, mais vous n'en savez rien. Oh, savoir et craindre sont deux sortes d'opinions, moins différentes que tu ne le supposes. Et pourquoi donc croyez-vous que la guerre finisse ? » Avec une tendre sincérité, le bonhomme répondit : Parce que tu me l'as dit. Mais moi, je n'en sais rien. Et parce que tu le désires. Peu s'en fallut que le respect n'empêchât point Michel de se fâcher. Et elle eut pris pour moquerie tant de loyale complaisance. Eh bien, dit le frère Siméon, s'il te faut des raisons pour que la prudence, je vais t'en donner. Une au moins. Si elle est bonne, je te prie de n'en pas chercher d'autres. Si elle ne l'est pas, ben les autres non plus. Mais elle est excellente. Il faut que la guerre finisse, car rien ne dure en ce monde momentané. Nos plaisirs ne durent pas, ni les roses. Si nos déplaisirs duraient plus longtemps, l'harmonie du monde en serait défaite. Mais les chardons et les roses, répliqua Michel, durent beaucoup plus longtemps que les roses. Le frère Siméon sourit au péril d'une allégorie empruntée simplement au Joliard des Jardins, petite affaire où il avait sa compétence. Et, continua Michel, la guerre dure depuis très longtemps. Ben, c'est pour cela qu'elle finit. Le frère Siméon fut content de sa réponse et de sa riposte. Et pour engager Michel, il insista. Elle est vieille, la guerre, et moribonde. Si vieille et si fatiguée à faire pitié. Oh que non, je n'ai point de pitié pour elle. Michel s'égaya, le frère aussi, et dit pourtant, c'est quelque chose encore qui s'achève et meurt. Et quelque chose de laid. Oui, quelque chose. Mais la gaieté de Michel ne permit pas qu'on l'attristât. Et quand la guerre sera finie? Bientôt, bientôt. Jean reviendra et je l'épouserai. Tu l'aimes? Car il est beau, large d'épaule, mince du baudrier. Et il t'aime? Car je ne suis pas laide non plus. Non, Michel, tu n'es pas laide. Et sauve-toi, il est temps que je travaille. J'ai beaucoup flâné ce matin. Le frère Siméon, qui s'en retournait au jardin, songeait à la beauté de Michel, de sorte que lui venait à l'esprit et aux lèvres, mais il avait soin de ne pas le prononcer, les mots du cantique de Salomon, les seuls mots de volupté que l'Église consacre où les attraits du corps féminin sont vivement célébrés. Il ne troublait pas la sérénité du bonhomme, il l'amusait, pour ainsi dire. Et comme il est admis que les tendresses de cantique symbolise une ferveur de sainteté, le bonhomme allait à épiloguer en secret sur l'aide plaisante que donne aux dignes volontés de l'amour divin le préambule des humaines amours en ce monde qui est le vestibule de l'autre. Le prieur attendait le frère Siméon dans le jardin. Siméon, dès qu'il l'aperçut, regretta de ne point éviter sa rencontre. Il n'aimait pas qu'on vint le rappeler aux noirs de l'idéologie et n'aimait pas qu'on lui prédit la fin du monde quand Michel attendait le retour de son amoureux. « Maintenant, dit le prieur, j'en suis sûr !» Et il comptait que Siméon tâcherait de lui taquiner sa doctrine selon les stratégies de l'héristique. Au jeu de riposter, l'on fortifie son opinion pourvu qu'on n'ait point succombé. Dont il n'avait aucune crainte, ayant son armure de syllogisme bien attachée. Siméon, d'un hochement de tête, refusa vite la controverse. « Qu'en dites-vous ? » demanda le prieur. « Oh, j'en dis rien, j'en sais rien. » D'une voix rude, le prieur l'admonesta. « Frère Siméon, prenez garde, vous aimez le doute. » « Je l'aime, répondit le bonhomme, assez bien. Mais c'est dangereux. Non, j'ai enfermé entre des murs solides mon credo, qui est la petite somme de l'enseignement divin, mais hors de là, je me promène avec la permission divine. Je m'agglode à ne pas conclure. Et notre Seigneur a discrètement limité nos certitudes obligatoires. Il a laissé à notre fantaisie tout le reste. » Un grand paradis où fleurit l'incertitude. Et la fin du monde n'agrée pas votre fantaisie? Aujourd'hui, non. Le frère Siméon souriait. Mais pourquoi? Ben, notre Seigneur n'exige pas que je souhaite la fin du monde. Le sourire de Siméon, qui parut narquois au prieur, n'était pas à l'adresse du prieur, mais à l'adresse de lui-même. Il trouvait drôle, un peu ridicule et plaisant, de refuser la fin du monde pour la raison qu'une petite fille serait déçue qui attendait son amoureux. Toute la journée, il fut dans son jardin, fort amusé d'un badinage où sa pensée allait et venait de quelque mélancolie à quelque gaieté. En ce début de printemps, les grands arbres qui n'avaient pas de feuilles composaient un paysage qui réunissait l'innocence et la simplicité. Malgré les teintes blondes que donnaient à l'air par endroits les reflets du soleil, le froid de l'hiver demeurait dans les recoins d'ombre et en sortait, chassé par la brise. Les blanches fleurs du verger semblaient de la neige, et l'on eût dit que le premier printemps du monde, avant de se produire, avait un frisson de timidité. Le premier printemps du monde ou le dernier ? Se demandait le frère Siméon. Il ajoutait : chaque printemps est le premier, par le bienfait de l'oubli. Dieu nous a donné, comme à la terre et aux arbres, un peu d'étourderie, afin que tous les ans, le printemps nous semble nouveau. Il y avait, aux branches des rameaux, de petits bourgeons, à peine visibles, tels pourtant qu'un jardinier ne manque pas d'y percevoir ou deviner l'approche de la sève. Et Siméon dit à son jardin : tu ne crois pas à la fin du monde. Et le prieur, si ça visait de te parler, ne te persuaderait pas. Tu as raison, travaille, mon jardin, travaille, et dans l'incertitude, compte sur le printemps. Mais Siméon dit à lui-même : oh, les jardins sont crédules, et non plus que de la fin du monde ne se méfie de la grêle et des intempéries. Chaque moindre fleur est par eux faite pour le fruit. Faites avec le même soin les fleurs qui s'épanouiront et les fleurs qui seront flétries sur l'arbre ou jetées sur le sol et gaspillées. Siméon, dès lors, imita son jardin, qui travaillait peut-être en pure perte, et jusqu'au soir, pareillement, les jours suivants, émanda les branches, corrigea le dessin courbé des rameaux, les dirigea en formes élégantes de vases et mesura leur ampleur à leur taille. Il songeait que les arbres avaient l'intention de vivre et tirait de là un indice à l'encontre des prophéties funèbres. Ou bien faut-il penser que Dieu est résolu de nous surprendre ? L'arbre des âmes le veut-il ravir à l'improviste ? C'est possible, mais ne dérogeons pas le projet divin, voire entrons dans la complicité divine, et laissons-nous voler nos âmes, petites choses, dans les grandes mains divines. Enfin, le frère Siméon, qui avait toujours aimé son jardin, l'aima plus encore et l'aima de cette façon que réclame un bonheur menacé. Il y avait dans le premier bâtiment du couvent, près du porche d'entrée, deux salles destinées aux voyageurs, l'une pour leur repas, l'autre pour le sommeil. Le frère Siméon se chargeait de les recevoir. Il accomplissait de grand cœur cette œuvre de miséricorde, et même y trouvait de l'amusement. Comme il était confiné depuis sa jeunesse, le récit de ces gens qui venaient de loin, après avoir vu les pays et enduré les aventures, lui ouvrait une large fenêtre, où il se penchait volontiers. D'ailleurs, il se gardait de leur accorder une extrême confiance et distinguait sans trop hésitation la véracité du conteur et les hâbleries. Les hâbleries ne l'offensaient pas, il admettait que, suivant l'usage des poètes, les vagabonds se plussent à embellir leurs anecdotes plus modestes. Il ne les démentait pas, car il n'eût aimé ni leur faire de la peine, ni à se priver de leurs imaginations. Puis, n'étant guère informé de l'univers et ayant accoutumé de vivre dans l'espace étroit du couvent, ce reclus ne prêtait pas beaucoup de réalité à l'espace inconnu. Il en écoutait la description comme d'une chose un peu futile, et qui serait au gré d'un chacun. Mais il observa que les récits des voyageurs prenait un sombre caractère et une étrangeté un peu effarante. À l'abbaye des Pucelles, dans la ville d'Orléans, le Christ en pierre du portail pleurait sans discontinuer. l'on avait vu couler ses larmes longues depuis ses yeux jusqu'à ses joues. Et comme Jésus a pleuré sur la ruine prochaine de Jérusalem, ne pleure-t-il pas, cette fois, sur un pareil dommage d'Orléans ? À Tours, les gardiens de la grande église, ayant ouvert la porte pour l'aune des matines, un loup entra, mordit la corde qui pendait à la cloche et carillonna. Un peu après ce tocsin, le feu prit dans l'église, dont il ne resta pierre sur pierre. Il y avait la peste en Italie et le Vésuve lançait les flammes qui montaient jusqu'à lécher les nuages. Il y avait en Gaule une terrible mortalité des plus nobles seigneurs et des pontifes les plus religieux. Siméon se disait que de tels événements, pour déplorables qu'ils fussent, n'étaient pas de grande nouveauté, que les plus nobles seigneurs et les pontifes les plus religieux sont mortels comme vilains et humiliants, que le feu du ciel n'épargne pas les églises les mieux bâties, et qu'on le sait bien, même si l'on ignore pourquoi Dieu le permet, qu'enfin, si le Christ a pleuré, on n'est pas à douter que son grand amour du genre humain ne l'y engage. Se disait aussi que tout cela, qu'on pouvait croire sans niaiserie, n'était pourtant pas parole d'évangile ou spectacle qu'il eut de ses yeux contemplé. Un jour, un Provençal, qui se vantait d'avoir été par l'Hellespont et la mer de Marmora au pays des Turcs infidèles, et le fils de l'empereur à Constantinople s'était amouraché d'un fantôme qu'il appelait la reine de Saba. Il avait glissé au doigt de cette ombre invisible, ou à lui seul visible, une bague de mariage, et la bague restait, comme suspendue dans l'air, à la hauteur d'une main. Un Normand refusa de croire à ce prodige, et le frère Siméon ne la pouvait pas de contredire un honnête homme qui, venant de loin, n'a pas forcé de soumettre sa fantaisie ou peut-être son souvenir aux coutumes de nos cantons. Il craignit aussi que la verve du Provençal n'en fût affligée. Mais bien au contraire, celui-ci redoubla de zèle, multiplia les anecdotes et accumula les prodiges, parmi lesquels se confondit la reine de Saba. Le génisse au pays des Sibiens avait mis bas un léopard. « Bon, allez-y voir, » dit le Normand. « Je t'emmène, » répliqua le Provençal. En Bohême, un nouveau-né, chenu de poil, tenait des propos scandaleux à faire monter la rageur aux joues d'un vieux soldat. « Dis voir un peu si j'avais à rougir, » lança le Normand. Siméon redoutait évidemment l'épreuve. Le Provençal le rassura d'un clin d'œil et répondit au Normand « Marlène, tu ne sais pas te parler de Bohème. » Le soleil vint qui apaisa l'émulation de vantardise et l'incrédulité. Mais après que le Provençal et le Normand furent allés dormir, un doux vieillard, jusque-là silencieux, resta en compagnie de Siméon et lui conta qu'il arrivait d'Italie où, fort une fête dans le négoce, il était allé visiter les églises de la chrétienté commençante. Il avait vu le clergé de Rome en état de singulière dissipation, qui étonnait le peuple naïf et le scandalisait. Oh, « Cela est fâcheux, » dit le frère Siméon, « mais il faut considérer qu'en surmontant de si rudes inconvénients et les avanies que ses enfants lui font, l'Église prouve sa pérennité. » Ben, « assurément, » répondit le marchand. « C'est une opinion qu'il sied de répandre parmi les fidèles et de cacher au clair, qui en abuserait, j'en ai peur. Mais à Ravenne, un grammairien nommé Villard, très savant homme et qui sait lire en 12 langues, a subi troublé par les démons. Ils lui apparaissent malignement sous les traits de Virgile, d'Horace et de Juvénal, lui recommande la sagesse des païens, la déguise d'une apparence chrétienne. Ils l'ont persuadé de croire aux mensonges des poètes comme aux prophètes authentiques et aux précurseurs de Jésus. Le souvenir des études qui autrefois l'avaient séduit, le rappel du danger qu'il avait esquissé grâce à Dieu, touchèrent Siméon d'un émoi bizarre et à la fois doux et gênant. Il murmura « Et nenos in nuncas in tentationem » nous induit pas la tentation. Et à ce mot de tentation, la sécurité où il était parvenu lui sembla très heureuse, bien que le caressât d'une étrange manière aussi le regret des délices morales qu'il avait renoncé. Le marchand reprit. Saint Jean, d'ailleurs, a prédit tous ces mots dans la prophétie où il déclare que Satan sera déchaîné au bout de 1000 ans. Veuille le Dieu puissant que la guerre finisse avant le monde, ou bien Michel aurait tant de ferveur en pure perte.
Il y eut un passage de pèlerins qui allait à Lérida, en Alcataloy. Il venait de Bretagne, de Flandre et d'Alsace. D'étape en étape, leur troupe avait augmenté. Ils étaient 40 et, le long du chemin descendant le royaume, ils seraient par d'autres dévots rejoints, de sorte qu'ils feraient un beau cortège à la pensée pieuse qui les guidait. Fort inégaux d'âge et de condition, de caractère et d'esprit, ceux-ci de riches bourgeois, ceux-là de pauvres et des mendiants parmi les seigneurs, des lettrés parmi les ignorants, tous étaient là et tristes. Qu'ils vinssent d'Alsace, de Bretagne ou de Flandre, tous racontaient la douleur du royaume. Ils avaient vu partout misère et famine. La pluie, depuis de longs mois, rendait la terre de Flandre un cloaque. Le débordement des rivières obligeait, ci ou là, les villageois à quitter leurs habitations et à se réfugier sur les collines. Dans le pays plat, que faire? On croyait au déluge, et dans de calamiteux bateaux, sur des radeaux, à tout hasard, on s'enfuyait. Un opulent négociant de Bruges avait, à l'imitation de Noé, fabriqué une arche où il s'était retiré avec sa famille, avec des couples d'animaux, avec des vivres de toutes sortes. Les malheureux du voisinage tentaient d'envahir sa maison flottante. Ils le repoussaient et avaient d'infâmes serviteurs occupés à combattre et couler les chétives embarcations. Car il n'est plus de charité en ce monde. Les paysans de Bretagne ne voulaient plus travailler. Les champs étaient en friche depuis 2 années et les prairies couvertes d'une vraie ivraie mortelle aux troupeaux. Il n'y avait plus ni blé, ni aliment d'aucune espèce. On mourait d'inanition si l'on rechignait à se nourrir de chair immonde. En quelques endroits, on déterrait la nuit les cadavres pour les manger. Il fallait surveiller les enfants. Des brigands les attiraient à l'écart en leur offrant un œuf ou une pomme, les tuaient et les dévoraient. Car il n'est plus même de répugnance, à défaut de scrupules. En Alsace, les hérésies les plus extravagantes foisonnaient dans les foules, comme livrées dans les prairies de Bretagne. Les inventeurs et preneurs d'absurdités promulguaient maintes contrefaçons de l'Évangile. Et, comme nous savons que la souffrance est le rachat de nos péchés, ils répandaient de la souffrance. Des fanatiques se transformaient en scélérats, guettaient au coin des routes les passants, les assaillaient, puis les martyrisaient pour les sauver. Ils prétendaient sacrifier au salut de leur prochain leur salut par un abominable dévouement. Saint monstrueux dont l'abnégation quasi diabolique jetait la terreur dans la campagne et aux abords des villes. Et le conteur ajouta d'une voix morne, « C'est ainsi que devait s'accomplir cette prophétie du Seigneur. » En Saint Matthieu, alors les élus eux-mêmes se sont séduits. Le vieillard dit encore, « Dieu nous châtie, mais l'indice des temps maudits, c'est qu'au milieu des calamités, nous ne rencontrerons plus une patience,
Les hommes ne s'inclinent plus sous le poing qui les frappe. Ils ne subissent plus, avec la contrition requise, la peine qu'ils ont méritée depuis des siècles. Et au lieu d'élever vers le juge leurs mains et leurs prières, ils s'égarent en rébellion. C'est ainsi que devait s'accomplir cette parole d'Isaïe. Le peuple ne s'est point retourné vers celui qui le châtiait. Et un autre vieillard dit enfin, « La vérité du Christ Jésus s'efface dans les âmes. Elles oublient que l'Évangile a signalé toute l'erreur ancienne et retournent aux fables du paganisme. L'on divise la nature et l'on ne distingue plus le Créateur de son ouvrage. On néglige l'avertissement de nos pères spirituels. Prenez garde aux sortilèges et aux ruses des démons, qui ont une étonnante promptitude à revêtir toute forme trompeuse, et qui se cachent le plus volontiers dans les arbres et dans les fontaines. » Les citations de l'Écriture et des Pères, au bout de tous les récits, arrivaient comme la moralité au bout des apologues, ou comme les refrains au bout des couplets, ou comme un tintement d'alarme, ou le gémissement d'un malade, et sans cesse pour annoncer l'accomplissement des présages suprêmes. Les pèlerins, surexcités par la course qu'avait donnée la prophétie à leur fatigue et à leur tristesse, ne firent tout le soir que bavarder confusément. Leurs paroles n'étaient que de petites plaintes, et où le frère Siméon ne démêla que peu de choses. Il entendit pourtant « Arriverons-nous en Catalogne avant la fin du monde ?» Les pèlerins partirent le lendemain, dès avant l'aube, afin de gagner du temps sur la destinée qui allait vite. L'on court ainsi devant l'orage, quand le vent pousse ses gros nuages à grande allure. Et le frère Siméon disait en lui-même « Pourvu que Jean songe à courir d'un train pareil, une fois déconfit les Sarrasins, qui au surplus sont engagés dans l'universel désastre. » Le frère Siméon, les pèlerins partis, médita leur récit, leur témoignage et la conclusion de tant d'arguments qui aboutissaient au même point. Aucun des faits énoncés ne lui semblait incontestable, ni de force à porter le fardeau du raisonnement qui s'épanouit, frêle tige et qui ploie ou brise la fleur trop lourde. Cependant, leur réunion valait mieux. Et il s'en étonnait, disant « La réunion de tout ce qui ne vaut rien ne vaut rien. Comme il est sûr que des prémices négatives, l'on ne les réduit que de néant. » L'examen d'une dialectique aventureuse l'ennuya. Somme toute, le jour et l'heure de la fin du monde ne l'intéressaient pas d'une façon qu'il eût à s'en faire un souci. Dieu n'ayant pas fixé le jour et l'heure, ou l'ayant fixé, mais sans nous le dire, épargnons-nous cette recherche. Le frère Siméon, si Dieu l'eût permis, aurait prolongé sans chagrin son séjour ici-bas. Dans l'éventualité de la fin du monde, il éprouvait un regret subtil à se dire que ce printemps serait le dernier dont la beauté le dut réjouir, et qui put, en ce coin brosseron, réclamer ses soins délicats. Mais quoi, n'irait-il pas travailler, âme diligente et habile, dans les vergers éternels? Tout ce qu'il avait de perplexité, il le portait avec une amitié futile et tendre. Sur l'aventure de Michel et du soldat qu'elle attendait. Le prieur dit au frère Siménon, « Maintenant, j'ai compté les jours, et dans 3 semaines, le vendredi saint sera le dernier jour. Je vais l'annoncer aux multitudes. »« Mais laissez-les donc tranquilles, » répondit le frère Siméon. Le prieur se fâcha. « Mais craignez-vous de les alarmer ? Craignez plutôt, frère Siméon, de tomber dans la noblesse mollesse des épicuriens. » Mais si Dieu a pitié de son peuple, aurez-vous plus de sévérité? Il est dit dans nos prières, « Amorte subnadala libera nos domine. » Le péril de la mort subite est le plus redoutable, et si j'en préserve le monde, aurais-je mes faits ? » Le frère Siméon répliqua. « Mais il est dit, selon saint Luc, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. » Et le frère Siméon leva les yeux pour attester que nul signe n'avait paru encore au ciel diurne. À ce moment, le prieur et lui aperçurent, qui venait du septentrion plus vite que des chevaux ailés, une grande nuée blanche et noire qui promptement gagnait sur la limpidité bleue du ciel. En peu de temps, elle eut rempli tout l'espace. Une rafale se précipita en grêle drue et faucha le jardin. Le frère Siméon ne bougea qu'autant que le poussait la tourmente. Il était bousculé tout de même que ses pauvres amis les arbres. Il tomba. Il fut à genoux, les mains sur le sol, n'essayant point de lutter ni de résister. Mais en dressant un peu la tête, il vit, blanches ou roses, toutes les fleurs de tous les arbres emportées par le tourbillon, détachées comme le seront nos âmes de nos corps. Les unes passaient dans les seins denses, d'autres à des hauteurs où la violence du vent se relâchait, voltigeait, puis défaillait dans la boue comme des papillons morts. Une reprise de l'ouragan déracina les arbres, les coucha sur leurs branches cassées. La pluie creusa des ravins dans le sol, brouilla le dessin des plates-bandes et changea en chaos affreux un jardin naguère ordonné à l'image d'une gentille intelligence. Après que la tourmente se fut apaisée, le frère Siméon fit l'effort de se relever. Grand effort, oh, non pas pour ses bras ni pour ses jambes, qui obéissaient encore à ses volontés énergiques, mais pour sa triste pensée, qui eut peine à le soutenir. À quoi bon se mettre debout ? Il fut debout, cependant, vit plus loin qu'il ne l'avait vu la désolation du verger, du potager, le désastre où l'année perdait son espérance. Il pleura, et sur ses joues, dans sa vieille barbe, les larmes se mêlèrent à la pluie. Le prieur vint à sa rencontre et lui dit « Frère Siméon, il y a eu des signes dans le ciel. » Le frère Siméon, sans répondre aucunement, consentit à ne plus débattre de la durée du monde. Il avait vu son jardin dévasté. Que lui importait l'univers ? Même il ne songeait plus à Michel et aux soldats qui tenait à merci les Sarrasins avant de recevoir de Michel sa récompense d'ici-bas. Il y eut le soir de bruyants éclats de tonnerre et sans nuages. Le ciel était parfaitement pur, de sorte que ce vacarme semblait une voix surnaturelle, inintelligible et menaçante. À la minuit, l'on vit l'une des étoiles les plus brillantes, comme prise de folie, se mettre à danser. L'on se souvint de Salomé, dont la danse avait précédé le trépas de Jean le Baptiste. Et les savants les plus habiles à interpréter les analogies, où les hasards montrent des intentions, dirent que la danse de la céleste Salomé annonçait le trépas du monde matériel qui nous octroie l'eau du baptême en vue de l'éternité spirituelle. Après que l'étoile eut dansé, elle disparut. On la chercha en vain dans le ciel. Les rêveurs, qui avaient accoutumé de l'y voir, s'en attristèrent. Les astrologues déclarèrent que l'économie de l'univers était dérangée. Le lendemain, plus noir que la figure des Éthiopiens, la lune passa devant le soleil et l'offusqua. Elle était venue sans qu'on la vît cheminer. Elle s'arrêta, de manière que ce fût évident de sa volonté ou la volonté qui la guidait. Puis elle partit en catimini, sans qu'on devinât quel Josué, dompteur nouveau du soleil, l'avait amenée et les conduisait. Et pendant que dura l'étrange aventure, les objets naturels ou fabriqués
revêtir la couleur du safran, les visages, une pâleur livide et mortuaire. La nuit, dès son commencement, fut marquée d'une autre épiphanie. Une comète emplit de son feu une partie du ciel. D'abord, les bonnes gens la regardèrent avec plaisir à cause de la beauté, à cause de sa drôlerie, d'un incendie suspendu aux voûtes aériennes du monde. La timidité de quelques spectateurs suscita une éprique de fanfaronnade où les plus hardis s'amusèrent. Il advint aussi que des vieillards, mieux informés, avertirent les étourdis de n'être pas sans crainte, les comètes ayant toujours été de mauvais augure. La dernière fois qu'une avait jailli des étendues nocturnes, le mont Saint-Michel s'était enflammé comme un brasier dans la mer. La précédente fois, l'empereur d'Allemagne était devenu fou. La précédente fois, le pape avait été chassé de Rome. Et cette fois, que fallait-il attendre? Les sages ne disaient pas. Mais le retour de la comète chaque nuit fatigua toute curiosité, ennuya le populaire et le mit en inquiétude maussade. Au couvent, le frère Siméon n'avait plus ni entrain ni courage. Les convers qui l'aidaient au jardin lui demandaient en vain son avis. À peine le répondait-il, et en peu de mots, ne témoignant plus de son art exquis ou de son intérêt seulement. Il ne voulait revoir ni le potager, ni le verger, ni les plants défaits, ni les arbres défleuris. La besogne lui semblait immense et inutile, de sorte qu'il ne bougeait pas. Il rêvait tristement, et même la prière ne l'animait pas d'une ferveur qui valut le nom de piété. Le prieur vint le voir et le secoua de remontrances cordiales, puis rudes. Le frère Siméon n'opposait qu'une extrême douceur de faiblesse à tant de fougue. Mais le prieur avait, dans son grand zèle, une fureur de joie terrible et ridicule. Ah, que l'honneur de la catastrophe où le monde serait englouti comptait peu au regard de cet homme qui pressentait que ses calculs et pronostics étaient justes. L'enivrant orgueil de la mort de l'univers nous mène au sacrifice. Le prieur agréait de mourir. Ce petit prieur d'un couvent perdu dans un coin beauceron se croyait régent de sa destinée pour entrevoir une coïncidence des événements et de l'idée qu'il en avait adoptée. Une telle arrogance et quelque férocité en surcroît choquèrent le frère Siméon, lui offensèrent son indulgente humilité. Il en fut éveillé de sa mélancolie et, sur un ton de polémique dont il n'avait pas l'usage, il dit « Mais qu'est-ce que le monde vous a fait ?» Le prieur éberlué ne répondit pas « Mais ce pauvre monde que vous condamnez sans chagrin, ce pauvre monde pour qui vous avez tant d'attachement, frère Siméon, n'est que péché. Il expira, cela est dit. » Bon, cela est dit, mais ne le répétez pas. Le prieur demanda au frère Siméon. Avez-vous pitié du monde? Oui, répondit le frère Siméon. Alors vous avez donc pitié du péché? Lui rétorqua le prieur, qui, ayant affirmé que le monde est le péché, se confondait, usait maintenant de logique simpliste à l'encontre de l'adversaire. « Mais si j'avais pitié du pécheur, répliqua le frère Siméon, je suivrais l'exemple divin. » « Le temps de la patience est passé, reprit le prieur. Voici le jour de la colère et de la vengeance, où le monde sera mis en poudre. Je le sais, le prophétise. Il faut que la prophétie éclate. » Il pèrerait ainsi. Le frère Siméon, las de l'entendre, lui dit,
Prenez garde, oh, il est écrit qu'à l'approche du jour dernier, il y aura de faux prophètes qui devanceront l'Antéchrist et lui seront des précurseurs de son imposture. Le prieur s'en alla, très mécontent. Tous les moines au couvent savaient que le prieur avait conclu à la fin prochaine du monde. Ils accueillaient diversement cette nouvelle, les uns volontiers, les autres avec regret. Plusieurs d'entre eux n'étaient pas sûrs d'y accorder leur confiance. Un jour, le frère Sibéon, par ennui, entra dans la bibliothèque. Depuis longtemps, il n'y fréquentait plus. Il y entra en flânant, tout dénué de curiosité. Le prieur avait mis à la bibliothèque un moine, l'un des plus ignorants, l'un de ceux qui gardaient le mieux préserver la simplicité de leur esprit. Mais il écrivait à merveille. Il traçait joliment sur le vélin les caractères latins et grecs, sans chercher à comprendre les phrases. Il copiait, sans préférence aucune, des livres sacrés ou profanes. Il dessinait doucement des signes dont la signification lui était nulle. On eût dit que la Providence le destinait à cette tâche, où son habileté de main n'aventurait pas sa pureté morale ni mentale. Les couvents s'étaient alors constitués, les refuges de la pensée humaine au milieu des tribulations que la barbarie infligeait à la chrétienté. Il conservait, parmi les livres de la Révélation, parmi les commentaires de l'Évangile et parmi les gloses dévotes, l'Antiquité aussi. Tout ce qui avait surmonté l'injure des siècles et auprès des lamentations de Jérémie sur les malheurs de la Judée, les plaintes de Tibulle relatives à l'infidélité d'une amie. Le frère Jérôme copiait depuis des années ce qu'on lui donnait à copier, les livres que le couvent possédait, de sorte que le risque d'une perte ou d'une inévitable usure des feuillets et le dommage de l'encre qui pâlit fussent moins à redouter. Puis les livres qu'à cette fin d'autres communautés prêtaient pour un peu de temps. Le frère Siméon vit que le frère Jérôme pleurait. Il lui demanda « Mais quelle est votre peine ?» Le frère Jérôme répondit « De tout cela qui sera consumé par le feu du ciel. » Et d'un geste menu et pathétique de la main, le frère Jérôme indiqua les rayons de livres bien rangés. Il pleurait de plus belle, dont le frère Siméon sourit, d'une manière que le frère Jérôme put le voir sourire, sans le croire moqueur. Le frère Siméon marchait de long en large, tandis que le frère Jérôme ne se consolait pas. Il vint à la table où d'habitude le bon copiste se penchait, et sur la page commencée, vit un poème assez libertin de Catulle, laissé en suspens. Dami bacia mille deinde, donne-moi 1000 baisers, ensuite il murmura deinde kentum, ensuite 100, et sa mémoire continuait la kyrielle des mots câlins quand il aperçut tracé d'une tremblante main ce mot désespéré, finis, que le frère Jérôme entendait la fin du monde avant la fin du poème. Par la fenêtre ouverte, il vit son jardin, qu'il avait, ainsi que le frère Jérôme, le poème, abandonné. Alors il s'approcha du frère Jérôme et lui dit « Nous sommes fainéants, frère Jérôme. » Le frère Jérôme répondit « Pour manger vos fruits et vos légumes ou porter à la chapelle les fleurs que vous auriez cultivées, il n'y aura plus personne. Et pour lire ces livres, personne. Oh, j'ai grand pitié de mon ouvrage et du vôtre. » « Oh, le mien, dit le frère Siméon, n'était pas d'une année sur l'autre année. Le vôtre avait eu commencement de la rêverie humaine jusqu'à ce jour. Il avait suivi tous les siècles d'une traite. » La suprématie que le frère Siméon voulait accorder à la besogne du frère Jérôme rendit le frère Jérôme un peu fier, et la fierté le soutint. Le frère Siméon, voyant cela, eut le sentiment de bien faire. Il prit l'un des livres, qui était Virgile, et y choisit la quatrième églogue, où est promis au monde la venue de notre Seigneur en termes voilés de poésie païenne. « Écoutez-moi, dit le frère, dit-il, frère Jérôme, il faut que ce divin poème, où balbutie très joliment la vérité, soit lu encore une fois. Oh, je n'entends guère le latin, confessa le frère Jérôme. Mais vous entendrez du moins le bruit que fit la vérité par la voix de Virgile un jour, et vous croirez voir une blanche et rose lueur d'aurore venue d'Orient, colorer le fait des monuments à Rome. Il lut toutes les glogues, et son plaisir était visible sur son visage. Il ajoutait un peu de méditation secrète aux passages qui semblaient marqués de prescience, et accordait aux endroits où la poésie redevient païenne sa bienveillance amusée. Le frère Jérôme l'écoutait, content d'observer que l'activité de ses doigts lui donnait de si belles choses. Ayant achevé sa lecture, le frère Siméon dit « Mais cela est charmant, et l'erreur s'y mêle à la vérité, de la plus gracieuse manière. Il m'a souvent coûté d'arracher de mes plaintes, bande le joli brin de l'herbe folle. » Il reposa Virgile sur le rayon, et dit encore, en montrant toute la rangée de livres de toutes sortes, « Oh, voici beaucoup d'erreurs, mêlées à quelques vérités. »« Beaucoup d'erreurs ?» demanda le frère Jérôme avec un peu d'inquiétude. « Mais oui, les livres ne seraient pas si nombreux, frère Jérôme, s'ils ne contenaient que la vérité. La somme de la vérité tiendrait en peu de mots. Ce sont les alentours et les accès de la vérité qui font un interminable chemin tout en lacets et dont il faut que rendent compte les courageux ou nonchalants explorateurs. Frère Jérôme, ne méprisons pas l'erreur. Elle circule aux abords de la vérité. Elle y atteindrait, si elle avait le temps, après avoir tenté les sentiers les uns après les autres, et ne fût-ce que par hasard, elle y serait amenée au moment le plus imprévu. Quand je lisais tous les livres dans ma jeunesse, il me semblait parfois que la vérité, du fond de sa petite cachette, regardait d'un œil curieux ou compatissant les égarés, suivait leurs tribulations, les voulait avertir, déplorait leur étourderie, aimait leur entrain, leur persévérance, et à leur approche ou à leur départ était en perplexité amicale. Sans doute plusieurs de ces vagabonds fervents ont-ils, quelques jours et par mégarde, poussé leurs pas jusqu'à elle? Ils ne le savaient pas, et ils se sont retournés à l'erreur. La vérité allait leur dire « Me voilà !» Et ils étaient ailleurs, déjà. Le frère Jérôme écoutait le frère Siméon avec une attention qui, sans lui rendre clair un tel discours, le divertissait de sa douleur. Il était content que son ouvrage fût l'objet d'une éloquente estime et, avec une simplicité avantageuse, confondait l'initiative des auteurs et le zèle de leurs copistes. Peu à peu, il oubliait qu'un si grand labeur fût destiné à périr. « Mais l'erreur est le faubourg de la vérité, frère Jérôme, reprit le frère Siméon, qui charmait ainsi sa mélancolie et, plus fine, la berçait d'une chanson plus délicate. Nous ne sommes que petites gens et gens des faubourgs. Il y avait là des artisans. Quelques-uns n'auront fait que baglauder au lieu d'être à la besogne. Il y avait dans ce faubourg des bohémiens à peine campés. Maintenant, nous allons entrer dans la ville. C'est la Jérusalem céleste où la vérité nous accueillera. Allez, frère Jérôme, adieu.
Avant de quitter la bibliothèque, le frère Siméon donna un dernier regard au livre. Il en toucha de son doigt furtif une rangée. Son geste désigna tous les autres et il dit « Voilà tout l'effort de la pensée humaine. Elle avait ingénieusement bâti un château de rêverie où l'on pouvait demeurer sans tristesse et avec honneur, en attendant mieux. » Alors le frère Jérôme, confus de reconnaissance, voulut rendre sa politesse au courtois visiteur et lui dit « Votre jardin aussi était beau. Il commençait de bien fleurir avec cette bourrasque prémonitoire qu'il a dévastée. Vous auriez eu un printemps gracieux et un été fertile. » Le frère Siméon s'attendrit sur tant d'aménité, s'attendrit sur son pauvre jardin, puis médita un instant sur la double gentillesse de la nature et de la pensée. Il lui sembla que Pan et Psyché, divinités du paganisme provisoire et jolis emblèmes, étaient réunis par un mutuel amour, étaient un corps et une âme dans laquelle s'éveille était la terre mimée de l'esprit. La mort intervenait pour séparer ces deux êtres imparfaits et charmants. Les deux frères, Jérôme et Siméon, pleurèrent un peu de temps, l'un naïf et l'autre avisé. La merveille inutile et fragile du monde promis à la destruction. « J'ai pitié d'un brin d'herbe, » dit le frère Siméon. Et pitié d'un petit trait noir sur blanc, marqué dans un livre. Ni le frère Siméon, ni le frère Jérôme ne pensaient l'un ou l'autre à lui, mais à l'univers, où ils éparpillent leur chagrin. Les deux frères étaient à ce point de rêverie, quand ils furent distraits par un bruit de voix, un bruit de foule. En se penchant à la fenêtre qui donnait sur le jardin, le frère Siméon ne vit rien, mais il laissa le frère Jérôme dans la bibliothèque. Il descendit et crut que des pèlerins, comme naguère, demandaient pour la nuit prochaine l'hospitalité du couvent. Non, ce n'était pas cela. C'était le village, pris de peur et qui se réfugiait au couvent. Le portier refusait le passage et débattait le terrain comme il Philélonidas, autrefois dans le défilé, que sa résistance a rendu célèbre. Le panique avait affolé le village, et les poltrons mettaient au service de leur timidité beaucoup de violence et d'effronterie. « Laissez entrer ces bonnes gens !» cria le frère Siméon. Le portier, faisant mine de s'écarter, on l'assomma. Il dégringola, on lui passa sur le corps. En peu d'instant, la foule fut dans le cloître. Le frère Siméon, que deux convers secondaient, releva le portier, le mena dans sa loge, l'étendit sur sa paillasse et vit que les blessures n'étaient que bosses. Et il se rendait au cloître, mais il rencontra le prieur qui se trémoussait éperdument. Il lui dit « Les voilà, vos prophéties !»« Mais je n'ai rien dit, » répliqua le prieur, « j'allais le dire. » « Ainsi, » demanda le frère Siméon d'un ton narquois et bourru, « ils ont trouvé ça tout seul, sans vous. » Le prieur sentit la moquerie et la repoussa. « Mais oui, frère Siméon, pour ne pas voir l'évidence, il n'y a que vous. » Par opiniâtreté philosophique. Eh bien, répondit le frère Siméon, je consens la fin du monde, puisque tout le monde la réclame. Non, la devine. La réclamer, la deviner, la consentir, autant de mots pour désigner une pareille vanité. Aussi me verrez-vous dans l'incertitude, rangé à la vie du peuple et d'un savant. J'éviterai de cette façon l'inconvénient de solitude, où il y a orgueil et tristesse et un froid pire que la mort.
Oui, repartit le prieur, mais qu'est-ce que nous allons faire de tous ces gens-là? Vous ne les avez pas pour longtemps. Oh, pour 14 jours, bien comptés. Le prieur compta sur ses doigts. En effet, les jours de répit que ses calculs laissaient au monde et infligeaient à son hospitalité. Ben, il faut, dit le frère Siméon, leur donner logement et nourriture. Oh, dit le prieur, avec un sublime sursaut de spiritualité. Oui, je vous entends, répondit le frère Siméon. Mais prenez garde que la faim ne les conduise à une extrémité où se dévoreraient les uns les autres et ainsi prépareraient mal leur vie éternelle. Dans le cloître, les gens étaient blottis en plusieurs paquets d'épouvante, hommes, femmes et enfants. Lorsqu'arriva le frère Siméon parmi eux, un tel silence l'accueillit que toute sa pensée en fut malheureuse. On attendait qu'il annonçât les prochains phénomènes et le tracas des minutes dernières. Les regards étaient dirigés vers lui, tendus vers lui, avec une extraordinaire ardeur de curiosité. Les bouches étaient ouvertes et prêtes à pousser leurs cris de désespoir. Il eut pitié d'une angoisse qui ne savait pas relâcher. Il s'approcha de l'un des groupes effarés, puis d'un autre. Il était surpris d'avoir, aux yeux de cette foule, un singulier prestige et bien désolé d'être sans efficace. « Allô ?» murmurait-il sur un ton d'encouragement qu'il aurait voulu rendre persuasif. « Allons, allons !» Il osait dire ce que lui suggérait une complaisante bonté. « Allons, ce n'est rien !» D'ailleurs, il lui semblait que les paroles fussent en pure perte. Il croyait avoir une bande d'oiseaux effarouchés que jette l'orage contre un mur sous le rebord du toit. Cependant, le silence l'interrogeait d'une façon qui ne pouvait se taire plus longtemps. Et il dit « Mais quoi, vous ne doutiez pas de mourir ?» Cette remontrance ne fit d'abord que détendre le silence. Les mots ne valurent qu'ainsi et sans que leur signification pût aller promptement jusqu'à l'esprit de la multitude en émoi. Les mots ne furent que les gouttes d'eau qui, après le coup de tonnerre, commencent de rendre l'atmosphère plus fraîche. « Vos parents sont morts, Dieu et leurs âmes, » continua le frère Siméon. « Vous n'avez pas cru être, depuis Adam, les premiers qui seraient dispensés de mourir. Vous n'avez pas cru, n'est-ce pas ?» On l'écoutait, on ne lui répondait pas. Il eut l'idée de s'adresser à un bonhomme énormément vieux qui appuyait sur deux cannes ses mains tremblantes et il lui dit, demanda, « Compère, le croyais-tu ?» Le bonhomme sourit, avec un air de modestie un peu gêné, comme s'il avait conscience de durer plus qu'il n'est de coutume. « Seulement, reprit le frère Siméon, tu n'y pensais pas, frivole !» et lui posa gentiment la main sur l'épaule. « Voilà, vous n'y pensiez pas, les uns et les autres. Dieu vous avertit à présent d'y penser. Bon avertissement. Et rien n'arrivera, mes petits, que ne l'ait permis la divine miséricorde. » Les gens étaient moins accablés, comme si l'étreinte de la peur se desserrait et laissait un peu de liberté à leur intelligence. « Allons, reprit le frère Siméon, soyez raisonnables. Je ne vous dis rien que vous ne sachiez le pillage de raison. Rentrez chez vous. »« Non, non, non !» gémirent ou crièrent certaines voix. Et comme il était visible que chacun sentait l'étreinte de la peur se resserrer en lui, pareillement les groupes de gens se tassèrent. Le bonhomme que le frère Siméon tout à l'heure avait interpellé eut l'entrain de répondre « Nous voulons rester ici jusqu'au dénouement. » « Bah !» fit avec bonne humeur le frère Siméon. « Enfant que vous êtes,
qui vous abritez comme d'une averse. Oh, mes petits, mais c'est pas ça. Cette maison ne tiendra pas plus que les autres debout quand il n'y aura plus de sol et que toute matière sera dissoute. Puis le terme est point arrivé. Vous n'allez pas rester ainsi pendant... Conduisez-nous à la chapelle, dit le bonhomme, et faites-nous réciter nos prières jusqu'à la fin. Vous n'allez pas sans discontinuer prier cependant. 14 jours, dit le prieur qui survint, 14 jours, autant de nuits. Le frère Siméon eut mieux aimé que nulle date ne fût déclarée. Il aurait laissé l'incertitude analogue à l'espérance et qui convient à notre infirmité, tempérer la rude et âcre certitude. Ainsi l'a voulu Dieu, probablement, qui nous impose l'assurance de mourir et nous préserve d'en connaître l'échéance. Mais, à l'étonnement du frère Siméon, le délai que le prieur accordait à ses condamnés leur fit un grand plaisir. On les vit soudain comme délivrés. C'est qu'ils avaient senti la mort toute proche, et la mort s'éloignait un peu. Oh, elle ne s'éloignait pas beaucoup, et seulement différait sa menace. Il suffit d'un si bref écart, et la vie recommença de palpiter dans ces décombres d'humanité concernés. Il y eut même un élan physique et mental qui suscita cette matière inerte et qui la portait dehors, à l'air libre de la campagne, au labeur ou à l'insouciance. Il parut un instant que ces gens oubliaient leurs craintes, méconnaissaient le terme fixé, retournaient à l'illusion du même cœur et avec la même naïveté que naguère. Les groupes déjà s'ébranlaient. Et le frère Siméon se demanda si on avait bien entendu ce que disait le prieur et qu'on n'agréait sans doute aucun. Pour ces 14 jours de répit, fallait-il changer de sentiment ? 14 jours, puis revenir au même désespoir ? Enfant, songeait-il, pour surplus tant de puérilité à sauver le monde jusqu'à ce jour, et le rendait un lieu agréable, une prison où les condamnés à mort étaient de jaie humeur et bien dissipés. Or, dans les groupes qui s'étaient ébranlés, la mésentente se manifesta. Certaines gens partaient d'un pas allègre. D'autres, qui d'abord avaient cru partir, demeuraient décidément, se rencognaient de nouveau, et l'espoir ne leur durait pas. Il y eut des familles que divisèrent les deux velléités. Ceux-ci essayaient de tirer dehors les affligés, ceux-là tâchaient de retenir les étourdis. Et ceux-ci et ceux-là usaient de douces paroles et de larmes touchantes. Et si les paroles ni les larmes n'obtenaient l'obéissance, ils recouraient à quelque brutalité. On aurait dit d'un terrible débat de bien-aimés au bord des tombes, les uns voulant arracher leurs amis à la mort, les autres les y attirer. Les exhortations se mêlaient aux plaintes, et cela faisait une grande rumeur. Ce n'étaient point les jeunes gens qui s'en allaient gaillardement, ni les vieux qui restaient le plus volontiers. Il y avait dans les deux parties des jeunes et des vieux, des costauds et des invalides, des riches et des pauvres. Leurs conditions d'infortune ou de chance ne les distribuaient pas en deux parties. Mais, se disait le frère Siméon, ce qui les sépare, ce n'est qu'une différente façon d'évaluer la durée de 14 jours. Après cela, comment s'étonner que l'éternité les effare ? Quand fut achevée la séparation des uns et des autres, il ne resta dans le couvent que 3 quarterons de gens au désespoir.
Et parmi eux, la plus cachée, la plus triste et silencieuse, le frère Siméon découvrit, accrope-t-on dans un coin, Michel.